Sorcier et sorcière, magie blanche, magie noire, voilà le thème de notre café littéraire. Et nous avons quatre auteurs très différents, mais qui tous abordent la question de la magie, des sorciers, des sorcières, des pouvoirs. Tout d'abord, James Morrow avec Le dernier chasseur de sorcières. Évidemment, rien que le titre nous renvoie à une page sombre, bien sûr, du puritanisme aux États-Unis, mais en la matière, les Européens, en matière de barbarie, de chasse aux sorciers, et surtout aux sorcières, n'ont évidemment de leçons à donner à personne. Histoire de sorcières aussi, Jeanne Adéba, qui va nous parler là aussi de sorcellerie. Mérope Malo, alors là on se lance dans une trilogie, Sorcière malgré elle, l'héritière des Raven. On a compris, rien que le titre vous annonce la question, c'est pas de sa faute, c'est sa lignée, et ça va pas être ça. Mais là, on est plutôt en littérature pour la jeunesse. Et puis, un livre un peu atypique dans le domaine, mais que j'ai beaucoup aimé aussi, Les enfants de Peakwood, de Rod Martin. Et là, on est plutôt aux États-Unis, mais à une période contemporaine. C'est le chamanisme, les Indiens, des pouvoirs et d'autres interrogations, mais on va y revenir tout à l'heure. Alors peut-être pour entrer dans le vif du sujet, le plus simple est de lire, petit extrait, en tout cas tenter, grâce à quelques rayons de lumière. Au début du 19e siècle, j'avais accumulé assez de rééditions pour entreprendre une campagne à grande échelle contre le Maleus Maleficarum. Oh, comme je regrette de ne pas avoir frappé plus tôt. Depuis la naissance de cet écrit monstrueux, il se produisait immanquablement une chimie mortelle sitôt qu'il captait l'attention d'un prêtre que l'éducation et l'imagination prédisposaient à voir Lucifer et ses acolytes tapis aux quatre coins de sa chambre et sous son lit. Et si un Roger Maps y était au plus haut point sensible, penser aux âmes plus frustres. Ma première attaque fut, qu'il me soit permis de le dire, des plus ingénieuses. Après m'être emparé d'une douzaine d'officiers d'ordonnance particulièrement influençables, je parvins à remplacer la bourre des canons de Bonaparte par la totalité de l'édition française du Malus. Durant la bataille de Borodino, 2000 maillets des sorcières furent déchirés menus et enfournés dans les bouches à feu de l'artillerie de la Grande Armée. Au soir de cette terrible et sanglante journée, 485 945 980 bouts de papier gisaient parmi les corps déchiquetés, et la force métaphysique de mon ennemi en était réduite d'autant. Cinq générations plus tard, le Maleus contre-attaquait. Alors, James Morrow, au-delà de l'aspect un peu humoristique du passage, vous évoquez les chasseurs de sorcières, plus que la sorcellerie, et vous citez le Maleus Maleficorum. Or, c'est un livre qui existe, c'est un livre qui a réellement été écrit par des chasseurs de sorcières européens. Est-ce que vous pouvez nous en dire tout d'abord un mot? Et pourquoi ce Maleus Maleficorum vous a inspiré?
Bonjour à tous. The passage that you just heard, marvelous reading by mon ami Stephanie, is being spoken by another book, not the Maleus Maleficarum of Henri Spengler, but the Principia Mathematica, this great work of science by Isaac Newton.
Donc le passage que vous avez entendu est avec une merveilleuse lecture par mon amie Stéphanie, que je remercie, n'est pas du point de vue du Maleus Maleficorum d'Henri Spengler, mais par, il est du point de vue d'un autre livre, qui est le Principia Mathematica, grande œuvre scientifique d'Isaac Newton.
I conceived Dernier Chasseur de Sorcières, The Last Witchfinder, as a celebration of the enlightened man, de la siècle des Lumières. But I was very much aware that the Enlightenment has critics and dissenters who have reasonably good arguments against reason, la raison. So I wanted a consciousness that floated free of the particular time and space in which heretics were burned for practicing witchcraft, and that could comment on all of history with some perspective on the Enlightenment. C'est de trop.
J'ai conçu et écrit Le Dernier Chasseur de Sorcières sous la forme d'une célébration des Lumières, mais j'étais très conscient que le siècle des Lumières a affaire à des critiques et certains contradicteurs. Pour ce pourquoi ils ont des arguments qui sont raisonnablement convaincants contre la raison. Par conséquent, je désirais avoir un point de vue qui serait une conscience qui s'élèverait, flotterait un peu au-dessus de ce temps et cet espace, notamment cette époque où l'on brûlait les hérétiques pour sorcellerie. Donc je voulais un point de vue qui puisse du coup se détacher un peu et puisse commenter toute l'histoire avec une certaine perspective sur les Lumières.
The only supernatural element in my novel is this conscious book. It assumes a universe in which books are alive, books have feelings, and books fall in love with us, just as we fall in love with them.
Le seul élément surnaturel dans ce livre, c'est qu'il y a donc des livres conscients. Ce récit se place dans un univers qui part du principe que les livres sont vivants, qu'ils ont des sentiments, et qu'ils peuvent tomber amoureux de nous de la même façon que nous tombons amoureux d'eux.
As you can infer from the passage that Stephanie Nicole just read to you, it's possible to think of my novel as a grand battle or conflict or war, even la guerre, entre the Malleus Maleficarum and Newton's Principia Mathematica.
Et de ce que vous pouvez déduire du passage que Stéphanie vient de lire, on peut considérer ce roman un petit peu comme la mise en scène d'une grande bataille, d'un conflit, voire même d'une guerre, entre le Malleus Maleficorum et le Principia Mathematica de Newton.
Merci. The Malleus Maleficarum appears in the middle of the 15th century, rather recent. It's important to remember that the fact of witch courts and witch persecutions is not a distant memory.
Le Principia Mathematica apparaît à la moitié du 15e siècle environ, ce qui est assez récent. Il faut bien se rappeler que la réalité des cours de justice qui jugeaient les sorcières, de leur persécution, n'est finalement pas un fait, n'est pas du tout un fait distant en termes d'histoire.
We often think of belief in demons as a primitive, unsophisticated, crude understanding of the universe, something to ascribe to the Middle Ages or the Dark Ages or pagan antiquity, but it's very recent. So whatever you think of the Enlightenment, it came along exactly when it was needed.
On pense fréquemment que la croyance dans un univers géré par les démons est primitive, qu'elle n'est pas sophistiquée, qu'elle est même grossière. Cette vision de l'univers est quelque chose de très primitif qu'on associe en général au Moyen-Âge ou à des âges sombres, voire même à l'Antiquité païenne. Mais en réalité, c'est récent. Et quoi qu'on pense des Lumières, c'est un mode de pensée qui est arrivé juste au moment où eh bien, on en avait besoin.
The story, the primary plot thread, tells of a fictional heroine, Janet Stern, who makes it her life's mission to destroy the Parliamentary Witchcraft Act dans l'Angleterre of 1604. She has many adventures trying to frame an argument that will disprove demons. She becomes a lover of Benjamin Franklin, a friend of Montesquieu, and finally ends up being tried herself for practicing witchcraft.
Donc l'histoire se place principalement du point, enfin raconte principalement le récit de l'héroïne qui est fictive, Janet Stern, qui se fixe pour mission dans sa vie d'abattre le Parliamentary Witchcraft Act en Angleterre, qui était donc la loi qui sur la sorcellerie dans l'Angleterre de 1604. Elle a bien des aventures en essayant de construire un argument, une argumentation qui lui permette de réfuter une vision du monde fondée sur les démons. Elle a bien des rencontres, elle devient l'amante de Benjamin Franklin, l'amie de Montesquieu, et elle termine par se faire accuser en sorcellerie justement pour présenter cette argumentation visant à réfuter cette vision du monde.
Merci. My heroine is very courageous. She pretends to be a witch so that she will be imprisoned, brought before a court, and allowed to defend herself by making an argument not for her personal innocence, but against this entire worldview, vision du monde, Weltanschauung, whereby demons run the world.
Mon héroïne est très courageuse puisque elle prétend être une sorcière, elle se fait passer pour telle, elle se fait jeter en prison et elle subit un procès où ça lui permet de se défendre et surtout de présenter ses arguments, mais elle ne le fait pas principalement pour prouver sa propre innocence, mais pour réfuter toute cette vision du monde, c'est-à-dire Weltanschauung, où les démons en fait dirigeraient le monde et où ils seraient présents à chacun de ces niveaux.
C'est tout. Merci.
On est vraiment dans un univers différent. Je posais tout à l'heure une petite question à James Moreau, justement, James sur sa vision du monde à lui, et y compris sur son rapport aux Lumières et à la France, puisque Montesquieu, évidemment, n'est pas une référence par hasard, et Newton non plus, même s'il s'agit de lui d'un anglo-saxon. Nous sommes donc dans Sorcière malgré elle, un petit extrait, où une simple pierre n'est pas une simple pierre. C'était une pierre verte taillée en pyramide. Qu'était-elle censée en faire? Les instructions qu'on lui avait données étaient pour le moins imprécises. Sa patience épuisée, Assia résolut de redescendre. Elle s'apprêtait à repartir quand un faible miroitement de lumière l'arrêta. Elle pencha la tête vers la roche qu'elle tenait dans sa main. Une lueur blanche au centre s'était allumée, gagnant les bords, et soudain la pierre la brûla. Assia la lâcha avec une bordée de jurons. Redevenue un simple caillou taillé grossièrement, la roche rebondit sur le parquet usé. Comment les amis de sa famille avaient-ils pu lui faire un coup pareil? Sa paume l'a lancée, et elle hésita entre jeter la pierre par une fenêtre et rester dans le grenier toute la soirée pour leur apprendre à se moquer d'elle, quand une nouvelle lumière devant elle manqua d'arrêter les battements de son cœur. Son esprit se bloqua. Devant elle, non, c'était impossible. Elle n'arrivait même pas à se décrire elle-même ce qu'elle voyait. Elle inspira profondément, ferma les yeux et les rouvrit. L'illusion était toujours là, et quelle illusion! Assia se voyait en double. Devant elle se tenait sa jumelle habillée comme elle. Devant elle se tenait sa jumelle habillée comme elle l'était, une salopette trop grande sur une brassière ajustée vers dos, ses cheveux clairs noués de façon lâche sur sa nuque. Son alter ego se tenait de trois quarts par rapport à elle. Il était légèrement plus évanescent qu'elle, mais pour le reste, c'était parfait, jusqu'à la fossette sur sa joue gauche. Assia, l'esprit en déroute, avança une main vers son double. Comme un signal qu'elle aurait attendu, l'autre fit un demi-cercle pour se tourner vers la cheminée, puis un pas en avant. Assia la suivit, tentant de comprendre par quels moyens techniques on pouvait obtenir un tel hologramme. Ni Hélène, ni Constance, ni Henri n'avaient paru si doués en technologie. Son double s'arrêta devant le mur du fond. Là alternaient briques et pierres de calcaire blanc, creusées par le temps. Assia vit sa jumelle lever la main jusqu'à un miroir ovale, serti dans un cadre doré, qui, et les cheveux d'Assia en crispèrent d'horreur, ne la reflétaient pas. L'autre ne paraissait absolument pas troublé de sa non-existence. La silhouette fit le geste de poser sa paume à plat au centre du miroir, puis dans une pluie d'étincelles vertes, elle disparut. Le cœur d'Assia cognait si fort contre ses côtes qu'elle crut qu'elle allait traverser sa poitrine. Elle chercha à appeler ses trois amis, mais sa voix avait complètement disparu. Assia tenta de se calmer. Pourtant, elle ne put attendre, sa curiosité la poussant en avant. La cheminée était encadrée de deux miroirs identiques. Elle fit un pas vacillant vers celui qu'avait approché son double et chercha une salive qui n'existait plus pour se donner du courage. Le temps nécessaire à lever la main jusqu'au miroir lui parut infini. Assia ferma les yeux en posant la main à plat sur le miroir. Elle perçut un mouvement à travers ses yeux fermés et se dépêcha de les rouvrir. Devant elle, un pan de mur grand comme une porte basculée, révélant un espace clair-obscur nappé de blancheur lunaire. Après un moment, tandis qu'Assia en était toujours à tenter de remonter, retrouver l'usage de son cerveau, le pan de mur commença à se refermer. Sans perdre davantage de temps, Assia se précipita vers l'ouverture. Un espace grand comme sa chambre, aux meubles et parquets blancs l'entouraient. Ça ne ressemblait pas à un grenier, plutôt à une sorte de luxueux bureau, garni d'objets étranges, un cabinet de curiosités. En fait, évidemment, il s'agit de tout autre chose. On a bien compris que les choses étaient un peu bizarres dans ce grenier, dans cette maison. Cassia ne le savait pas encore, mais qu'elle était un peu bizarre. Que sa famille, elle commençait à le deviner, était vraiment bizarre. Que la ville où elle habitait était tout à fait bizarre. Et que certaines familles rivales de la sienne étaient sans doute aussi bizarres, mais beaucoup plus inquiétant. Est-ce que j'ai résumé, Merope Malo, un petit peu l'atmosphère et le début de ce roman, Sorcière malgré elle ?
Oui, tout à fait. En fait, le texte présente l'histoire.
Si, ça marche.
Miracle.
Les lumières sont sur
les... Nous avons les flambeaux électriques encore.
Les lumières.
Donc, l'histoire. Est-ce que tout le monde a remarqué quand même, je te laisse finir après, que le thème. Vous êtes vraiment sûr, James Moreau, que la sorcellerie n'existe pas? Mais Repé Malo, reprenez.
Les lumières, où sont les lumières?
Rien ne marche.
Il n'y a pas de HF.
Mais Repé, donc, est-ce que vraiment cet univers est décrit avec tous ces mystères et ces pouvoirs mystérieux chez les personnages, dans la ville elle-même, dans les différentes salles?
Oui, en fait.
Ça marche plus, ça ressaut.
Ok. Oui, en fait, l'histoire se passe dans une ville qui n'existe pas, mais qui est une ville française. Et j'avais envie de faire quelque chose de vraiment très contemporain avec de la sorcellerie. Et du coup, j'ai raconté l'histoire d'une famille, les Raven, qui arrive dans cette ville au XVIe siècle. Et quand on connaît un petit peu l'histoire de la sorcellerie, on sait que c'est un peu le moment de bascule, pardon, à la fin du XVIe siècle, au début du XVIIe siècle. En France, c'est le moment où la sorcellerie, la chasse contre les sorcières s'arrête un peu. Et là, du coup, il va y avoir, c'est un peu l'arrêt des bûchers et tout ça, et enfin, la raison commence à émerger. Et en fait, cette famille se cache toujours, même de nos jours, pour plein de raisons qu'on peut comprendre sur les journalistes, sur c'est quoi ses pouvoirs, etc. Donc, cette héroïne ne sait pas qu'elle est l'héritière de sorcières, elle ne sait pas non plus qu'elle est l'héritière de ce secret. Donc, elle va elle-même découvrir tous ces éléments, pour comprendre à quel point il est important de garder le secret, ce qui va être son but dans les trois tomes, en fait, tout en exerçant évidemment ses pouvoirs de sorcière.
Je vais ajouter un autre élément pour donner envie peut-être, entre autres, aux lecteurs adolescents. C'est qu'il y a évidemment une histoire d'amour, mais légèrement contrariée, en tout cas au début du roman. Et en quelque sorte, c'est deux personnages qui sont issus de deux familles rivales en matière de sorcellerie. Ça nous rappelle quand même Roméo et Juliette. Vous y aviez pensé en créant ces personnages ?
Moi, non, en fait, parce que j'avais vraiment créé les personnages en me disant ils vont avoir tous les deux des rapports avec la magie. Et pour le coup, Roméo et Juliette ne sont pas des personnages qui sont porteurs de magie, mais c'est vrai que c'est mon éditrice qui m'a dit qu'elle aimait beaucoup ça dans mon roman, cette histoire à la Roméo et Juliette. Et on va effectivement découvrir que Alec, donc le beau garçon de la famille rivale, a lui aussi des pouvoirs qui ne sont pas des pouvoirs de sorcier, qui sont des pouvoirs liés à l'océan en fait.
Gêne à débat, vous avez mal commencé, c'est-à-dire par la science-fiction, littérature fort mal vue il y a 20 ou 30 ans. Vous avez quand même décroché, je crois, 3 ou 4 prix. Bon début de carrière quand même. C'est comme ça que ça vous a valu quelques ennemis, évidemment, légèrement jaloux. Mais à part ça, vous avez ensuite bifurqué vers l'ensemble des littératures de l'imaginaire. Vous êtes visiblement un auteur sans frontières. Et là, vous vous êtes lancé dans une série, en tout cas deux, un diptyque pour le moins.
Là, il y en aura d'autres.
Trilogie. D'accord. Le troisième n'est pas encore sorti.
Non, c'est l'année prochaine.
Bon, ça va. Rien ne m'a échappé. Le premier, l'héritière. Décidément. Décidément. On hérite beaucoup dans ces familles de sorciers. De sorcières. Heureusement ou malheureusement, ma mère avait abandonné cette partie de mon éducation. Enfin convaincue que je ne serais jamais une sorcière comme elle. Moi qui ne pouvais fréquenter longtemps l'école. Elle m'inscrivait au Centre national d'enseignement à distance et je passais sans enthousiasme une maîtrise de lettres classiques qui me servirait autant que ses manuels d'incantation. Je ne pouvais pas plus enseigner que je ne pouvais ensorceler, mais elle avait eu l'impression que de me donner une éducation plus en rapport avec ma condition semi-humaine. Cela dit, je n'étais pas sûr que les humains normaux fassent non plus grand-chose d'une maîtrise de lettres classiques. Ça sent l'autobiographie, Jeanne Adéba.
She's graduated. Plutôt le trollisme. And
the guy says, well, it's as useless as witchcraft is.
Dans l'univers de l'héritière, de toute façon, l'univers de l'héritière, c'est une poche, une bulle temporelle à l'intérieur d'un univers plus vaste que j'ai commencé en 2006. Avec deux nouvelles. Une nouvelle qui était parue chez ActuSF qui s'appelait L'Ogre de Ciment. Et une autre qui est sortie dans le recueil Stratégie du Réenchantement, Gilles Bûcher, et en fait qui est centré autour d'un personnage qui bizarrement apparaît aux alentours du 15e siècle. C'est une date un peu butoir, le 15e siècle, et pas tout le monde adore le 15e siècle. Et donc c'est le vampire Navarre, qui se retrouve donc personnage secondaire dans la trilogie de l'héritière. Voilà. Et donc le vampire Navarre traverse le temps, traverse les genres, n'a aucun préjugé d'ailleurs à propos des genres. Personnellement, il trouve qu'au bout de 500 ans, si on a encore des problèmes avec l'hétérosexualité, l'homosexualité, c'est que vraiment on manque totalement d'imagination. J'ai fait OSS 117 avec vampire. Avec Navarre, c'est, ça s'appelle Métaphysique du vampire, c'est là où là, il est personnage central. Et l'héritière, c'est le versant paranormal romance de la force. Et comme je veux absolument à chaque fois respecter les codes du genre auquel je m'attaque, du coup, ça ne pouvait plus être lui le narrateur. Et j'ai donc pris Agnès, sorcière ratée, mais ultimement ratée. D'ailleurs, on ne sait même pas ce qu'elle est, vraiment. Elle a un véritable problème grave et définitif, elle voit des fantômes partout. Du coup, pour éviter d'en voir, elle a plusieurs solutions. Alors, l'alcool d'abord, à forte dose, ou le cannabis. Mais le problème, c'est que le cannabis, c'est pas en vente libre. Elle va le découvrir en sortant de chez elle vers 27 ans, quand elle va être arrêtée par les flics. Avec une dose dans le sang capable de tuer un régiment, mais elle en prend depuis la naissance. Sa mère, sorcière, elle utilise le cannabis sativa comme toutes les sorcières l'ont fait depuis les Romains. Du coup, elle se fait arrêter et là, elle comprend qu'il est plus possible de fumer du cannabis parce qu'elle ne survivra pas un second séjour en prison. Il y a trop de fantômes dedans. Et évidemment, les flics ne lui fournissent plus de cannabis à ce moment-là pour faire barrage. Donc, il y a des gens, quand ils boivent, ils voient des éléphants roses. Elle, c'est l'inverse. C'est quand elle ne boit pas qu'elle en voit. Donc, tout le problème d'Agnès, c'est de découvrir qui elle est. C'est pas forcément sorcière. Mais ça y ressemble. En tout cas, elle pratique une magie qui est la magie des mâles sorciers. Parce que dans mon univers, ce sont les sorcières qui ont une magie naturelle, qui peuvent incanter, qui peuvent faire des choses comme ça. Mais leurs mâles, parce que c'est une espèce légèrement à part des humains, ils sont totalement dépourvus de pouvoir, ce qui leur permet, soit dit en passant, en général, d'échapper aux persécutions, tandis que leurs compagnes passent à la casserole. Mais du coup, comme ils ne peuvent pas supporter, c'est quand même des mecs, d'être sous la coupe, ils ont inventé une magie mécanique qui est à la portée de n'importe qui, et c'est la seule que peut pratiquer Agnès.
ce qui agace un peu sa mère. Voilà. Alors justement, dans cette série, l'héritière, et ensuite c'est Alouette, au pluriel. Elle travaille, cette pauvre fille, puisque quand même, au bout d'un moment, il faut aller travailler. Alors, comme elle arrive à rien faire, work, sorcière et pas même prof, ce qui quand même est à peu près le même métier, finalement, cette jeune femme, elle finit par travailler dans une étude notariale où on traite des histoires avec des sirènes, des loups-garous, des vampires et autres créatures. Et je ne sais pas si c'est aussi une histoire de pouvoir magique, mais le chapitre 1 de Alouette, le volume suivant. Vendredi 16 avril 2032. Qu'est-ce qu'un orgasme? Pendant des années, je me suis posé la question dès que j'en avais un. Ou plutôt, pour être totalement honnête, je m'interrogeais 30 secondes après. Environ une minute de supputation biologico-sentimentale qui me servait surtout à éviter de parler. Car j'aurais été capable de me laisser entraîner par mes hormones en ébullition vers une annonce imbécile que j'aurais regrettée ensuite. On ne déclare pas son amour immortel moins d'une heure après avoir baisé. Confondre la reconnaissance du ventre avec l'éternité est la preuve d'un absolu mauvais goût. En plus, j'ai un problème de discernement redoutable. Dans mon cas, cela aurait dénoncé un aveuglement tragique. Les bons amis de mon frère aîné, qui me rendaient jadis ces tendres services, se montraient amicaux et doux, sans plus. C'était tout ce que je leur demandais. Je n'imaginais même pas de tomber amoureuse à l'époque. Je n'avais rien à offrir à personne, seulement quelques heures volées à la nuit. Et à la vigilance parentale. C'est encore de l'autobiographie,
Ah non, pas du tout, là.
Vos parents étaient très vigilants?
Non, mes parents n'étaient pas très vigilants dans le sens où ils estimaient qu'ils n'avaient rien à vigiler. Je suis d'une génération qui a été fille de 68 ans. C'est mon père qui m'a amenée à 13 ans chez le gynécologue pour que je me fasse prescrire la pilule. Et que je l'avais donc dans la table de nuit de ma chambre pour m'en servir quand je voulais. Et je m'en suis servi 2 ans plus tard. Mais j'ai eu le blanc-seing, si j'ose dire, parental absolu, tout de suite, parce que c'était une chose totalement normale dans ma famille.
D'où ce ton un peu primesautier et réaliste aussi, sur ne confondons pas tout et son contraire.
Voilà, c'est ça. Mais ça, c'est clair que c'est un héritage, oui.
Il y a parfois de bons héritages parentaux. Pourquoi ce goût pour la fantaisie urbaine, tous ces mélanges là, quand même un peu louches, ces sirènes, enfin, finalement, pas de barrière, pas de préjugés, c'est pas ça qui compte dans votre œuvre.
Le pas de barrière, pas de préjugés.
Pas de préjugés, les personnages sont très divers et on a une certaine liberté de ton dans vos romans. Je trouve c'est très frappant.
Mais c'est la base de l'histoire. En fait, l'univers que j'ai construit, c'est un univers qui à la base était cloisonné. Où tous les gens, enfin, comment dire, un peu compliqué à expliquer. Il y a la physique ultime qui réagit, qui régit. La physique restreinte et la physique générale. Et ça veut dire que tout existe en fait, que tout ce que l'homme a imaginé depuis la nuit des temps, et y compris le réel, la réalité consensuelle, existe. Et plus exactement, coexiste. Parfois, pour que l'univers tienne soit cohérent, ces royaumes sont cloisonnés et étanches. Et il arrive des moments dans l'histoire où les royaumes deviennent poreux. Et ça, c'est le problème de la mondialisation. En fait, au moment où l'héritière arrive, on est dans une mondialisation. Le village global est si total que la mythologie fonctionne de façon totalement écuménique. Donc effectivement, on se retrouve à croiser des yeux romains dans les rues de Paris, qui n'ont jamais quitté finalement, et qu'on peut les voir, alors qu'avant on ne pouvait pas, on n'appartenait pas à leur royaume ou plus à leur royaume. Il y a même des kitsunés qu'on n'aurait jamais dû rencontrer en tant que, par exemple, européen. Seuls les Japonais étaient capables de les voir à l'époque. Sauf que, voilà, le village est devenu mondial, donc la mythologie est devenue mondiale, et la physique ultime est chargée de gérer tout ça. À l'aide des instants. Et c'est un moment à la fois. Ça ressemble un peu à la Moïda, au moment de Barcelone, c'est-à-dire que tout est permis, mais et que chacun cherche ses limites personnelles. Voilà. Mais c'est vrai que aussi, je suis quelqu'un qui est profondément libre dans mon cœur et ça se sent dans ce que j'ai envie d'écrire. Ça parle de ça, de chacun qu'est-ce qu'il veut au fond. À condition que
Mineur et consentant. Pas mineur et consentant, pardon. Je suis fatiguée.
Majeur. Majeur et consentant.
On me ramène un café, s'il vous plaît.
Mineur et consentant, je te le dirai. Bien. On passe dans un tout autre univers avec vous, Rod Marty. Finalement, même les sorcières de James Burrow sont parfois prises au tiers. Enfin, on y a de l'humour en tout cas. On ne peut pas vraiment dire ça des enfants de Pickwood. On est plutôt quand même dans un univers plutôt tragique, où il y a beaucoup d'émotions contenues. C'est d'ailleurs une des performances de ce roman, où on pourrait être dans le pathos, on ne l'est jamais. On est dans une petite ville américaine, et ça je trouve c'est très bien rendu. C'est un grand classique, hein. Vous coulez un petit peu dans justement ces archétypes de la littérature, y compris anglo-saxonne, et vous faites à la manière d'eux extrêmement brillant et personnel, donc je tenais à le dire. Parce que c'est toujours important quand on commence en littérature de savoir comment seront accueillis ces premiers ouvrages. Et on est vraiment plongé dans un autre univers. Il y a une histoire d'enfant, il y a d'ailleurs une magnifique couverture, un bus accidenté à la sortie de Pickwood. Et à partir de là, rien ne sera plus pareil. Dans Brewing, les guirlandes accrochées au-dessus de Central Avenue n'étaient pas bien différentes de celles suspendues dans les autres communautés en cette période. Une rangée de cerfs au nez rouge, un Père Noël entouré de lutins, un sapin en boule clignotant. Chaque année, lors des illuminations, les Indiens de la réserve jouaient la surprise en les découvrant. Cela faisait près de 15 ans que les décorations n'avaient pas changé, mais l'excitation de retrouver leur famille à cette occasion les rendait euphoriques et prêts à s'extasier d'un rien. C'était le moment où ceux habitant dans le loin des plaines ou les forêts décidaient de réapparaître. Pareil pour ceux partis travailler dans les grandes villes. Seuls les plus anciens étaient mécontents. Eux ne voyaient là-dedans qu'une nouvelle bataille perdue. Encore une génération, nous serons tous devenus blancs, disait souvent leur patriarche, Akuwetu. Malgré ses plaintes, ils ne refusaient quand même jamais une tranche de rôti lors du réveillon. En s'engageant dans la rue principale, la procession de voitures venant de Pickwood attira le regard de tous les hommes sortis faire la fête. Des frères et des cousins qui fuyaient femmes et enfants pour s'amuser entre eux avant les prochains dîners interminables qui les retiendraient une bonne partie de la soirée. Se reconnaissant, le 4x4 rouge du chaman, en tête de fixe, levèrent une main vers lui en paraissant intrigué par les blancs à sa suite. Les Blackfeet avaient l'habitude de n'être qu'entre eux une fois le soleil couché. Les touristes repartaient généralement en bus après avoir passé un après-midi dans leur nation, comme s'ils craignaient de les voir se transformer en monstres une fois la nuit venue. Shayton, assis à côté de lui, rappela à Ojima les jours où il devait venir le chercher lorsque le shérif l'avertissait que sa bande s'amusait à effrayer les voyageurs. À cette époque, cela semblait s'être déroulé des siècles auparavant, il se baladait avec des touffes de crinières de chevaux qu'il faisait passer pour des scalps humains en les couvrant de peinture rouge. Il pouvait encore entendre distinctement le rire de son fils à ces occasions. Une saccade d'air teintée par une voix claire, toujours enfantine. Il était persuadé que ses pleurs ce soir resteraient aussi longtemps gravés dans sa mémoire. Presque les mêmes que ceux d'un animal blessé. Il entendit de sortir de la ville pour jeter un coup d'œil dans le rétroviseur et s'assurer de n'avoir perdu personne. La file de voitures aux phares allumés, qui le suivait comme une colonne de lucioles, avait quelque chose de surprenant. Pas parce qu'ils avaient cru en lui. L'être humain était capable d'ouvrir grand son esprit dans ce genre de situation. Mais parce qu'il avait accepté qu'il vienne, il devenait trop sentimental en vieillissant. Dans sa jeunesse, il n'aurait jamais franchi les limites qu'il était sur le point de dépasser. L'interdiction de procéder à une cérémonie de Loki avec autant de morts emmenait des blancs à la grotte d'Apaï. « Il faut que le moins de gens possible soit au courant », avait-il dit à son fils en arrivant sur le lieu de l'accident. « C'est une petite communauté, ils savent se serrer les coudes », lui avait-il répondu, fatigué. Depuis, Shayton n'avait plus prononcé un mot. Son regard était perdu au loin. Il continuait seulement à se frotter les doigts, là où des taches de sang s'étaient imprégnées, après avoir touché la poitrine ouverte de sa fille. Sans quitter la route des yeux, Ojima passa une main sur la banquette arrière pour s'assurer que la couverture sur le corps de sa petite fille n'était pas tombée. Le goudron, en mauvais état, faisait rebondir le 4x4, et il ne voulait pas leur imposer à lui et à son fils une nouvelle vision du regard sans vie de l'enfant. Au loin, le pic de la montagne Inaki commença à apparaître sur la ligne d'horizon. La légende racontait qu'elle portait le nom d'une femme indienne s'étant suicidée avec son bébé après la mort de son époux parti à la guerre. Elle était pour les chamans, celle ayant créé une ouverture entre les mondes au moment de passer de l'autre côté, à peine un autre bâillement de porte qu'il essaierait d'élargir pour faire revenir les êtres aimés. Depuis des générations, aucun Indien n'avait procédé à cette cérémonie par peur des répercussions, mais il n'avait pas le choix. Il devait sauver sa petite fille, la rendre à son fils. Est-ce que son père ou son grand-père aurait refusé de le faire? Il ne le saurait jamais, mais il en doutait. Quand il repensait à eux, il les revoyait toujours remplis d'amour et de tendresse. Il contempla la pleine lune qui brillait fort, à présent que les nuages avaient été emportés par le vent. Elle lui donnait l'impression d'être dans une de ces nuits américaines des vieux films hollywoodiens. « On y sera bientôt, » dit-il en tapotant gentiment la cuisse de son fils. Chetan tourna son visage vers lui et approuva tristement d'un hochement de tête. Ojima espérait de tout cœur pouvoir lui rendre le sourire. Toutes les âmes ne reviendraient pas. Les trop jeunes ou les trop sensibles resteraient dans l'autre monde et ils n'auraient plus qu'à attendre la fin de leur propre vie pour les revoir. Avant le lever du soleil, ils sauraient tous de quoi étaient faits ces enfants. Il se mit à prier. Voilà, le passage était un peu long, mais je tenais à le lire intégralement. On entre très vite, c'est les premières pages, dans le roman. Un terrible accident a eu lieu. Une dizaine d'enfants sont morts. Instituteurs touchés eux aussi. On emporte ces corps en convoi vers une grotte sacrée, blanc et indien mélangés, et le rituel de résurrection va avoir lieu. Mais touché à la frontière de la mort, est-ce sans conséquence? On va très vite découvrir que non, ou du moins, on va plus tard découvrir que non, puisqu'il y a une ellipse assez longue de temps entre ce début du récit et le reste qui va ensuite corrompre l'ensemble de la petite ville de Picoult. Rod Marty, qu'est-ce qui vous a donné l'idée de traiter un tel thème pour votre, c'est votre premier roman?
C'est le premier roman. Alors moi, pour le coup, pour rebondir par rapport à la famille et aux parents, donc moi j'ai été élevé dans une famille qui avait certaines croyances où il y avait beaucoup le thème de la résurrection des morts qui venait régulièrement. Donc c'est un peu le sujet de base. Et ensuite, ce que je voulais aussi aborder comme question, c'est j'ai essayé de faire un monde quand même assez très réaliste où plus personne ne croit à la magie, où plus personne ne croit au surnaturel, où il n'y a plus que ce vieil indien Ojima qui est un peu la dernière génération de chamans que plus personne ne veut suivre, parce que maintenant dans la réserve des indiens, tout le monde est parti dans les grandes villes. Ceux qui restent, il s'agit principalement des vieux, et son fils, même son fils, a renoncé à ses croyances parce que son fils est à la fois nord-américain et à la fois amérindien. Et donc lui, il a décidé de suivre la route de sa mère plutôt que celle de son père, après une cérémonie dans sa jeunesse qui l'a traumatisé et où pour le coup il a tout mis de côté de ce côté-là. Et en fait, ce qui le fait revenir à ce chamanisme, son fils donc, qui est médecin, c'est le fait de découvrir sa fille qui est sans vie sur la route. Et à ce moment-là, il se souvient que lorsqu'il était sur le point de partir en faculté de médecine, son père lui avait dit que s'il continuait leur tradition, il pourrait lui apprendre justement à comment ramener des esprits dans des corps morts. Et donc à ce moment-là, quand il voit sa fille, il se rappelle de ça et il revient vers son père. Donc, et son père saisit cette chance justement non seulement pour sauver sa petite fille mais aussi pour récupérer son fils en espérant pouvoir lui donner le flambeau.
Après, c'est aussi le thème des stigmates, puisqu'on verra réapparaître en fait des traces des anciennes blessures, je ne vais pas en dire trop. Et on aura aussi le problème de la culpabilité, le problème de la corruption du mal quelque part. Ces thèmes, ça renvoie là aussi à cette histoire familiale, à cette formation de départ, qui est la question du mal qui hante quand même ce roman.
Le thème, c'est magie blanche, magie noire. Pour moi, il n'y a jamais vraiment de magie blanche. C'est-à-dire que toute la magie qui va être utilisée dans ce roman, il y aura toujours des répercussions, il y a toujours un prix à payer. On ne demande pas à l'au-delà en fait, de venir nous aider sans être prêt à payer quelque chose. Et donc, bien sûr, dans la suite du roman, il va y avoir un prix à payer pour avoir ramené cet enfant dans le monde.
Et aussi dans le livre, enfin, si je l'ai bien lu, un rapport, vous parliez du rapport entre le père et son fils, entre la tradition et la modernité, et c'est aussi toute cette complexité qui est là américaine, mais qui pourrait être la nôtre finalement. Ce sont des thèmes qui visiblement vous intéressent.
Moi, il y a quelque chose, je pense, dans ce roman et à la fois dans celui que je suis en train d'écrire en ce moment, un thème qui est important, c'est un peu la transmission, le rapport qu'on a avec ses enfants, ce qu'on va laisser à ses enfants. Et donc, c'était était facilement abordable avec justement ce chaman qui est d'une autre génération et son fils qui a choisi la science, de voir ce que le fils qui avait pris une autre voie pouvait encore apprendre de son père, donc plus que ce qu'il ne pense au départ.
Autre question, c'est la façon dont vous traitez le surgissement de la violence dans le roman. Elle est souvent, là pas magique, mais très réaliste justement. Ce sont des personnages à la fois parfois un peu monstrueux, mais aussi très ordinaires. C'est important pour vous, le réalisme, le mélange justement, un peu typique de la fantasy urbaine, entre ce réalisme extrêmement construit qu'on pourrait trouver dans un roman noir, par exemple, américain, et cette présence de la magie sous-tend quand même l'ensemble du roman.
Je pense que dans les personnages qui vont prendre une mauvaise voie ou qui vont se transformer en monstres, la magie prend chez eux en fait toutes les failles qu'on peut chacun avoir. Donc toutes nos peurs ou toutes nos craintes dans la vie, la magie ou les démons qui vont intervenir par la suite attaquent sur ces points-là justement pour rendre monstrueux des gens qui sont comme nous tous. People as monsters, but the
humans, the flows were human. James Moreau, dernier chasseur de sorcières. Vous parliez tout à l'heure de Newton. Vous parliez aussi des références à Montesquieu aux Lumières. Le 18e siècle pour vous est une période importante. Est-ce que justement l'histoire du monde n'est pas quelque part, quels qu'en soient les siècles, l'affrontement entre la volonté de se libérer pour les êtres humains de leur superstition et puis ceux qui ont une vision manichéenne et souvent violente du monde.
Absolument. I very much agree with what Rob Marty said, that toute magique est magique mauvais. I think all magic is dark magic because it obliges you to manipulate other people and it sets you apart in an elite society. The grand conflict between reason and revelation will perhaps never go away. The Enlightenment was a vital stage, I think, in human intellectual evolution. I weep for my country, Les États-Unis, where so many politicians would like to see la République des États-Unis become a Christian theocracy.
Absolument. Je suis tout à fait d'accord avec ce que Rod Marty vient de dire quand il met en avant le côté mauvais en général de la magie, que toute magie est sombre. Je suis d'accord avec ça et c'est ce que je pense, puisque ça vous oblige à manipuler les autres et cela vous place à l'écart dans une forme d'élite. Je me demande si le grand conflit entre la raison et la révélation va jamais disparaître. Les Lumières, pour moi, étaient une étape vitale dans l'évolution intellectuelle de l'humanité. Mais je pleure pour mon pays, les États-Unis, où tant de politiciens voudraient voir la République américaine devenir une théocratie chrétienne.
On y est, dans un extrait.
And that's what this extract
même si est là dans le roman, on parle évidemment du passé, mais on voit bien qu'on parle aussi des fanatiques d'aujourd'hui qui tentent, même s'ils ne réussissent pas toujours, à nous pourrir la vie. Monsieur Stern, après la lecture de ces documents, j'aimerais vous dire que notre position rejoint celle de Sunderland, dit Halifax. Hélas, il nous faut réserver notre approbation tant que nous n'aurons pas éclairci vos singulières opinions religieuses. Singulières. Un mauvais pressentiment s'empara de Walter, semblable en vérité à ce malaise qu'il ressentait chaque fois qu'une sorcière présumée remontait à la surface de l'eau. Je vous assure, messeigneurs, je suis un chrétien qui dit ses prières tous les soirs. Dans votre lettre au précédent monarque, Jacques II, vous écrivez, je vous cite, « Étant de foi romaine, sa majesté devrait nourrir une sympathie particulière pour la chasse aux sorcières, dit Lord Gurney. Et plus loin, vous observez, je vous cite, le Malleus Maleficarum est de source catholique. Et encore, la lutte contre Satan ne devient rationnelle et systématique qu'avec le Summis Desiderantes du pape Innocent en 1484. Ainsi, monsieur Stearn, bien que Jacques eût embrassé la perversion papiste, il ne vous a sûrement pas échappé que les maîtres de l'Angleterre sont aujourd'hui des protestants, comme Lord Halifax, Lord Wycombe, et moi-même, mais moi aussi, protesta Walter. Et la foi protestante serait-elle, à vos yeux, inférieure à la catholique dans le domaine de la chasse aux sorcières, sans qui Lord Gurney ? Oh non, monsieur, bien au contraire. Devons-nous vous rappeler ce que disait Luther, intervient Lord Wycombe. Je n'aurai point de compassion pour ces magiciennes, je les brûlerai toutes. Le mot d'ordre du moine a toujours eu ma préférence, répondit Walter, peu familier avec le point de vue du réformateur allemand. Alors peut-être savez-vous aussi que Jean Calvin a dit, je cite, « Dieu commande expressément que tous les sorciers et les sorcières soient mis à mort, et cette loi de Dieu est une loi universelle. » J'ai inscrit ces paroles sur la page de garde de ma Bible, dit Walter, se promettant de le faire. « La religion protestante est une religion de chasse aux sorcières, déclara Lord Gurney. Les centaines de milliers de satanistes exterminés depuis l'avènement de notre Rédempteur, près d'un tiers des condamnations est à mettre au crédit des magistrats de la Réforme. Walter se donne un coup de poing dans sa paume ouverte. Il faut dire aussi que ces diables de papistes ont 15 siècles d'avance. Bien parlé, monsieur, déclara Halifax. Mais Lord, il semblerait que nous tenions, monsieur Stearn, un chasseur de sorcières patriote, pieux et surtout protestant. Absolument approuvable. Bravo, bravo, cria Gurney. Walter lâcha un soupir de soulagement à éteindre une bougie. Quand on entend ce descriptif avec des citations tout à fait exactes sur Calvin, Luther, bref, ces réformateurs protestants ne valaient pas en la matière beaucoup mieux que les catholiques qui condamnaient deux clans de fanatiques. Aujourd'hui, on pourrait voir ce genre de propos signés par Daesh ou Al-Qaïda. Finalement, rien ne ressemble plus, au travers des époques et des religions, à un fanatique qu'un autre fanatique. Est-ce que ce roman est aussi une trace de votre inquiétude? Est-ce que les Lumières, à votre avis, sont menacées? Et enfin, James Moreau, est-ce que ces Lumières, ça vaut le coup pour nous tous de les défendre et, s'il le faut, de se battre pour nous?
I think before we decide that reason has been tried and found wanting, a position that many of my religious friends take, I think we should really try reason.
Je pense qu'avant de décider que la raison est passée en procès et qu'on trouve qu'elle laisse à désirer, une position que bien des amis religieux que j'ai adoptent, je pense qu'il faudrait faire un véritable procès à la raison.
At the moment, I could think of only one truly secular nation on the face of the planet. It's called La France.
Actuellement, je ne vois vraiment qu'une seule nation réellement séculaire sur la planète, et cette nation s'appelle la France.
When we think of the Taliban and the larger world of the arguments made by the Prophet Muhammad, it's sometimes said, ah, Islam never went through a reformation. Tant pis. I would say the problem is that Islam never went through an enlightenment.
Quand on entend quand on entend le point de vue des talibans et les arguments au sens plus large des fanatiques islamiques, on entend souvent dire en face que le problème c'est que l'islam n'a jamais traversé une voie de réforme. À mon avis, le problème c'est que l'islam n'a jamais traversé quelque chose de comparable aux Lumières.
When it comes to being a person vulnerable to the charge of witchcraft, the Protestant Reformation was not necessarily good news at all. It's almost as if the Catholic Church and the Protestant Church engaged in a rivalry over who could destroy the most witches.
Parce que si l'on se place du point de vue de la personne qui pouvait éventuellement risquer de se faire accuser de sorcellerie, Ma foi, la réforme protestante n'était pas une bonne nouvelle non plus. Et d'ailleurs, on peut même considérer que la foi catholique et la foi protestante sont presque engagées dans une forme de rivalité pour voir quelle était celle qui réussirait à détruire le plus de sorcières.
This is not progress.
Et ça, ça s'appelle pas le progrès.
J'ai vu que vous réagissiez pendant que Jacques Moreau s'exprimait, Jeanne.
Alors, il y a deux choses qui me sont venues à l'esprit.
Two things came to my mind.
Alors, d'abord, sur la magie.
About magic.
Pour moi, enfin, dans mon univers à moi, la magie, c'est un genre de technologie.
Magic is a kind of technology.
Et elle n'est pas réservée à une élite. Donc c'est comme un marteau, on peut s'en servir pour planter des clous, on peut s'en servir pour fracasser un crâne. Donc en soi, elle n'est pas mauvaise, il n'y a pas de mal. On est un peu désagréable avec les nécromanciens, mais c'est parce qu'ils ne sentent pas très bon. Mais il n'y a pas ni magie blanche, ni magie noire. Tu vois, ça c'était le premier truc. C'est, je n'ai jamais pu l'envisager comme autre chose qu'un moyen. Après, tout dépend de qui utilise le moyen et pour quel noble fin, comme disait Frank Herbert. Ça c'était le premier truc. Et le second truc, c'était par rapport au passage que tu as lu de James, qui m'a rappelé un running gag de lecture que j'avais sur le fantastique américain, qui était que lorsque ils étaient, c'est très très visible dans Salem de Stephen King, par exemple, c'est que lorsque arrive un événement surnaturel particulièrement mauvais, on a d'abord les protestants en première ligne qui commencent à essayer de se dépatouiller avec le problème, avec le mal, mais la vraie solution, elle va venir des grands anciens, du curé catholique que tout le monde a méprisé depuis le début. Et j'ai toujours trouvé ça super rigolo que finalement on a cherché les vraies vieilles recettes contre le mal chez les affreux papistes. J'ai lu ça dans au moins 4 ou 5 bouquins où finalement les protestants allaient retourner aux sources parce qu'ils n'avaient pas le choix. Ils étaient confrontés à un mal aussi ancien que les papistes. Voilà. Les vrais spés, c'était les catholiques.
Eh bien, on va arriver parce qu'il est l'heure, même si on a eu quelques problèmes techniques, on va néanmoins devoir laisser la place à un café littéraire, j'espère tout aussi passionnant, mais j'en suis persuadé, voyant notre modérateur Jean-Claude Van Troyen, que celui-ci, où on a eu vraiment des invités tout à fait épatants. Je vous propose de retrouver nos invités sous la bulle du livre avec de chouettes livres, ce qui ne reste pas à cette conférence suivante. Jeanne Adéba, l'héritière, et Alouette, elle vient d'exprimer sa vision de la magie. Mérope et Malo, on vise les adolescents, mais moi, très adulte, je me suis bien amusé avec Sorcière Malgraine sur l'héritage des Raven. Les enfants de Picoud, un premier roman de Ron Marquis qui vraiment, vous l'avez senti, que mérite la lecture et pourrait même peut-être intéresser à certains prix dont on discutera plus tard, au moins pour la sélection. C'est un livre peut-être pas accessible à tous, mais qui devrait intéresser une partie de nos jeunes lecteurs. En tout cas, un beau livre, vraiment, que j'ai trouvé réussi de bout en bout et qui me donne envie de vous lire à nouveau très bientôt. Et enfin, évidemment, l'un de nos invités américains, un ami de longue date, un homme qui nous a toujours passionnés par son ouverture d'esprit. C'est pas sarcrophophilie, on n'est pas le centre du monde en France. C'est bien d'aimer la France, mais on aime aussi bien l'Amérique quand l'Amérique est symbolisée par des hommes aussi ouverts, aussi passionnants et aussi sympas que James Moreau. Il est talentueux, mais ça vous le saviez déjà. James Moreau, le dernier chasseur de sorcières. Merci à tous, et ce café est dédicacé et plutôt offert à toutes les victimes de l'intolérance religieuse, mais aussi à tous les croyants qui ont un vrai esprit de tolérance et d'ouverture. Et ceux-là sont nos amis. Merci beaucoup.